RFI, Radio France Internationale, il est 1h ici à Paris, minuit en temps universel. Bienvenue sur la Radio du Monde pour ce nouveau point sur l'actualité de notre planète.
Jérôme Bastion.
Au sommaire de ce samedi 9 novembre 2024, les attaques antisémites à Amsterdam sont abjectes, dénonce Joe Biden après l'agression de supporters israéliens à la sortie d'un match de football jeudi soir. Réaction vive donc notamment à Jérusalem où Benjamin Netanyahou ravive le souvenir de la Shoah. Aux États-Unis, le nouveau président élu, Donald Trump, voit ses ennuis judiciaires s'éloigner et voit aussi Elon Musk se rapprocher. Le patron de Tesla aurait même participé à des coups de fil diplomatiques avec l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, par exemple. Et puis les Européens, en ordre de bataille pour faire face à la guerre économique que leur promet le futur président américain Donald Trump, les 27 pays de l'Union réunis à Budapest esquissent un plan de relance inspiré par l'ancien chef de la Banque centrale européenne, Mario Draghi.
RFI.
Un pogrom antisémite, ce sont les mots du président israélien après les incidents violents de jeudi soir à Amsterdam, aux Pays-Bas, en marge d'un match de football. Des supporters israéliens ont été violemment pris à partie, donc agressés dans les rues de la ville après le match Ajax-Maccabi, un match de Ligue Europa. Le gouvernement israélien a dépêché des avions pour rapatrier les supporters, priés en attendant de rester dans leur chambre d'hôtel. Des incidents qui avaient, semble-t-il, été provoqués par une provocation venue de certains supporters israéliens qui avaient la veille brûlé un drapeau palestinien. En Israël, en tout cas, le Premier ministre Benjamin Netanyahou préconise désormais un plan d'action dirigé par le Mossad pour éviter la répétition de ce genre d'événements. Et Benjamin Netanyahou multiplie les analogies avec la période de la Shoah, Michel Paul.
Le nouveau chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sar, s'est rendu sans plus attendre à Amsterdam et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, de son côté, dans une séquence très médiatisée, prend lui la parole depuis la cellule d'urgence du ministère des Affaires étrangères à Jérusalem.
Demain, cela fera 86 ans qu'a eu lieu la nuit de cristal, au cours de laquelle des juifs ont été attaqués sur le sol européen parce qu'ils étaient juifs. Cet événement s'est reproduit. Cela a été marqué hier dans les rues d'Amsterdam. Voilà ce qui s'est passé. Une sorte de nuit de cristal. Il n'y a qu'une seule différence, l'état des juifs a depuis vu le jour.
Netanyahou indique notamment qu'il a ordonné au Mossad, le service de renseignement israélien, de préparer un plan d'action pour éviter des violences lors d'événements sportifs. Et en attendant, un premier avion est de retour en Israël. Il transportait l'équipe Maccabi Tel Aviv. La police était à l'aéroport Ben Gurion à l'arrivée de l'équipe et a recueilli des témoignages. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Témoignage justement celui d'un supporter du Maccabi Tel Aviv qui relate sa fin de soirée cauchemardesque à Amsterdam. Écoutez-le.
Mais ce n'est pas une question de football, ce n'est pas lié au football. Quand nous sommes entrés dans la gare de Dames, nous avons été pris dans une embuscade. Et la police, au lieu de nous garder en sécurité, de servir de bouclier humain entre nous et eux, ils nous ont éloignés de la station pour vider la gare. Et en fait, ils nous ont mis dans le piège. Et ensuite, ça a tourné au cauchemar. En fait, il y avait, je sais pas, je dirais des centaines de musulmans qui nous attendaient à chaque coin de rue. Ils se sont séparés par équipe de 15-20 personnes et à chaque carrefour, à chaque pont, dans chaque tunnel, ils vérifiaient les passeports. Il y avait aussi des motos avec 2-3 personnes dessus. Ils nous attendaient, ils ont jeté des gens dans le canal et ils ne les laissaient pas sortir. C'était un cauchemar. C'était une véritable zone de guerre dans les rues et personne n'a été capable de nous protéger. On était seuls pour se débrouiller.
Propos recueillis par Julien Chavannes. Au total, 5 personnes ont été brièvement hospitalisées et 62 personnes ont été arrêtées. Aux États-Unis, semaine de rêve pour Donald Trump, largement élu président, mardi face à sa rivale démocrate Kamala Harris, le milliardaire républicain qui pourrait également dire adieu à ses ennuis judiciaires. Empêtré dans plusieurs procès, vous le savez, avec notamment des poursuites pour l'affaire du Capitole en janvier 2021, lorsque lui et ses partisans avaient tenté de renverser l'élection de 2020 qu'il avait perdue. Abandon de charge à laisser sous-entendre le juge responsable du dossier. RFI Washington, Guillaume Nodin.
La juge Tania Chutkan n'aura mis que quelques instants à valider la demande du procureur spécial Jack Smith qui mène les poursuites contre Donald Trump dans l'affaire jugée à Washington. Toutes les échéances liées à l'affaire sont suspendues, le temps d'évaluer les suites à donner. Ce sera sans nul doute un abandon des poursuites et on devrait le savoir avant le 2 décembre. C'est que mardi, il y a eu l'élection de Donald Trump. Il doit prendre ses fonctions le 20 janvier prochain et la politique du département de la justice est de ne pas poursuivre les présidents en exercice. Donald Trump aurait de toute façon mis fin à ses poursuites à son arrivée à la Maison-Blanche. Le dossier était déjà beaucoup moins solide depuis que la Cour suprême a accordé une large immunité au président en exercice. Deux autres dossiers sont également dans les limbes, celui des documents secrets sur lequel travaille aussi Jack Smith. Il a été suspendu sine die par la juge de Floride qui le supervise et qui a été nommé par Donald Trump. Suspension indéfinie aussi dans l'affaire de tentative du renversement du résultat de l'élection de 2020 en Géorgie. On attend que la peine réservée à Donald Trump après qu'il a été reconnu coupable de falsification de compte par la justice de New York. C'est prévu pour le 26 novembre et cela repose uniquement sur les épaules du juge Merchan qui doit être dans ses petits souliers. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et je vous rappelle que les autorités judiciaires américaines ont par ailleurs annoncé l'inculpation d'un agent de l'Iran, accusé d'avoir reçu l'ordre de Téhéran d'organiser des projets d'assassinat aux États-Unis visant notamment Donald Trump, ainsi qu'une dissidente irano-américaine. Farhad Shakeri, un Afghan de 51 ans, résident en Iran après avoir passé 14 ans en prison aux États-Unis, est accusé d'avoir recruté des criminels de droit commun pour le compte des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, selon des documents judiciaires américains. Donc, l'élection de Donald Trump qui rebat les cartes en Europe sur la sécurité, sur l'économie également. Les Européens en sont bien conscients. Les 27 ont pris un certain nombre de décisions en sommet à Budapest, en Hongrie, pour trouver les moyens de relancer l'économie des 27. Mario Draghi, à son arrivée au sommet de Budapest, a donné ses recommandations pour un rebond économique européen. On l'écoute.
Les recommandations de ce rapport étaient déjà urgentes compte tenu de la situation économique dans laquelle nous sommes. Elles le sont devenues encore plus depuis les élections américaines. Il ne fait aucun doute que la présidence de Trump marquera une grande différence dans les relations entre les États-Unis et l'Europe. Ce ne sera pas que négatif, mais nous devons bien sûr en tenir compte. L'administration Trump va certainement encore pousser le secteur de la technologie, de la high-tech. C'est un secteur dans lequel l'Europe est très en retard, alors qu'il tire la productivité. De grands changements sont à venir et l'Europe ne peut plus se permettre de repousser ses décisions.
L'ancien président de la Banque Centrale Européenne et ancien Premier ministre italien Mario Draghi, qui a présenté donc son rapport sorti en septembre dernier pour relancer l'économie des 27 Européens. Des propos recueillis par Nicolas Feldman. En France, le Conseil d'État a rendu sa décision concernant Déméter, cette cellule de gendarmerie que le Conseil d'État a confirmé avoir mené des missions de surveillance tout à fait légales. Déméter a été créée pour lutter contre l'agribashing, le dénigrement des agriculteurs et les intrusions dans les élevages. Un jugement inquiétant pour les associations de la cause animale et de l'environnement. Les explications d'Élodie Papin.
Pour L214, Polynice et Génération Future, qui se sont associés pour mener des actions en justice contre la cellule Déméter, cette décision s'inscrit dans un contexte toujours plus répressif à l'égard des associations qui s'opposent au modèle intensif de l'agriculture. Écoutez Mélodie Le Goff, juriste à L214.
On est assez inquiet, même voire atterré par cette décision, parce qu'on considère que c'est un danger grave pour les libertés d'expression, d'information, pour le rôle des lanceurs d'alerte, en fait, des associations de défense des animaux, de l'environnement.
Une inquiétude qui s'explique par le flou qui entoure cette notion d'action idéologique suivie par la cellule. Les associations craignent qu'elle dissuade désormais tout engagement dans la défense de l'environnement. Clément Hélary, chargé de communication à Polynice.
La gendarmerie pourrait venir surveiller n'importe quelle structure militante qui prend la parole pour dénoncer l'usage massif de pesticides, toutes les problématiques liées à l'agriculture industrielle. Forcément, ça va créer un climat de peur pour tout militant qui risquerait de s'exposer à cette surveillance-là si jamais il prenait la parole.
De son côté, la FNSEA, partenaire de la cellule Déméter, se félicite sur X de cette décision.